exact. Aujourd'hui, pour commencer, nous allons parler de politique. Et puis...
Soit même un discours un peu sérieux.
Il est grand, il est beau, il est fort. Il est roi et il le sait.
La nuit, au clair de lune, il se tenait caché au bord de la route.
Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur le plateau de...
GTFM
sur le 91.2.
Sonolab. Le Sonolab. L'atelier des sons. Des projets sonores et radiophoniques réalisés avec des écoles, collèges, lycées, des établissements médicaux, sociaux, culturels, de loisirs de 6 ans à 166 ans. Le mercredi et le dimanche à 11h sur JetFM 91.2.
Bonjour, c'est l'émission Citoyen proposée par le GEM de Nantes et JetFM 91.2. Ici présent Emmanuel, bonjour, Laurent,
bonjour,
et Julie à la technique. Nous allons parler d'art-thérapie. Son principe, c'est de se servir de la création artistique sous toutes ses formes pour pénétrer les problématiques inconscientes de l'individu et le conduire à une transformation positive de lui-même en utilisant ses douleurs, ses violences, ces contradictions pour en faire le matériau d'un cheminement personnel. Commençons d'abord par l'interview de Luce de Francesco qui fréquente le GEM et qui nous parle de son art et de ses manières de le vivre au quotidien.
Francesco, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours ?
J'ai fait les beaux-arts et après j'ai travaillé en porcelaine comme artiste, comme décorateur. Et depuis j'ai fait des sculptures et des peintures et j'expose en ce moment dans une galerie de Nantes qui s'appelle la Galerie des Glaces.
Est-ce que tu lises dans ton œuvre la souffrance que tu peux ressentir par moment ? Est-ce que ça fait partie de ce qui te pousse à créer ?
Oui, parce que oui, d'ailleurs c'est très, très tourmenté ce que j'ai fait, il paraît.
Quand as-tu su que tu deviendrais artiste ?
Je sais pas, il faut voir déjà si je suis devenu artiste, et d'une, hein, parce que c'est pas évident à définir. Et puis sinon, oui, depuis toujours, j'ai toujours aimé créer, donc disons que j'ai l'art un peu en moi, dans l'âme.
Arrives-tu à en vivre ?
Absolument pas, comme beaucoup, quoi.
En quoi l'art t'a-t-il aidé pour ton bien-être dans ton quotidien ?
En quoi ça m'a aidé en... C'est une forme d'expression, donc à m'exprimer, à faire ressentir ce que je ressens.
Pourquoi viens-tu au GEM ? Qui trouves-tu ?
Ça fait plusieurs années que j'y viens. Là, j'ai fait une pause, mais je suis retourné. J'ai plein d'amis. Je viens pour le partage, pour parler, pour discuter, pour rencontrer des gens, pour l'échange.
Conseillerais-tu aux personnes du GEM de pratiquer un art ?
Ah oui, absolument. Oui. Pour s'exprimer, oui, il faut.
As-tu une actualité par rapport à ton œuvre ? Où peut-on les voir ?
Soit à la Galerie des Glaces, soit sur mon site. Donc mon site, c'est Francis Farmer Art Majeur. C'est le seul site que j'ai trouvé pas payant.
Est-ce que par rapport à la maladie, ton art t'aide à dépasser certaines choses ?
Oui, ça aide, ça donne envie, quoi, t'as un but. Par contre, quand t'es malade, il y a des jours que je ne suis pas capable de travailler.
Tu disais que les gens trouvaient ça torturé. Toi, t'as pas ce ressenti-là par rapport à ce que tu fais ?
Un peu, des fois, oui. Un peu comme quand c'est fait exprès, quand c'est des personnages qui sont torturés, oui. Je ressens bien que c'est torturé, c'est fait exprès. C'est le sentiment que je réexprime dans l'art.
Est-ce que l'art-thérapie, ça te parle ?
Oui, je connais le mot, j'ai jamais essayé. Pour moi, c'est créer des choses artistiques, donc s'exprimer de ses mains, avoir une idée, la réaliser, c'est pour ça l'art thérapie. Après, ça peut être plusieurs moyens, ça peut être la peinture, la sculpture, du collage, des aquarelles, des assemblages, voilà. La musique aussi, ça peut être ça, de l'art thérapie. Moi, c'est pas mon domaine, mais tout ce qui est création, quand on a une idée, on crée, on réalise quelque chose. Je pense que c'est ça.
Est-ce qu'il y a une question de, à travers l'art en général, une question de revalorisation de soi-même ?
Oui, oui, tu te révalorises, tu montres aux autres ce que tu sais faire, donc tu as un certain plaisir quoi aussi.
Ben, je te remercie Francesco pour cette interview. Merci.
Merci à vous.
Voilà, c'était Francesco interviewé par Luz. J'ai des questions à mes comparses. Même question, donc est-ce que vous vous exprimez par l'art, par exemple Emmanuel, toi, tu me disais que à l'atelier d'écriture tu faisais ça. Voilà.
Oui, il y a l'atelier d'écriture au GEM qui est organisé toutes les semaines le mardi. Au départ, c'était organisé par quelqu'un qui est parti. Si elle revenait, ce serait pas mal. Et après, il y a eu Gérard qui s'en est occupé. Et donc, maintenant, c'était Joël. Et puis, je m'en suis occupé par la suite. Et donc, on s'exprime tous sur des sujets différents, qui sont à chaque fois renouvelés. C'est plus ou moins suivi par les adhérents. Ils ne viennent pas tout le temps. Et donc ça permet ensuite d'être, on se lit et on se critique pas forcément, c'est surtout positif, voilà.
Très bien. Et toi, Laurent ?
Moi je fais de la musique et de la photo, voilà, donc la photo ça fait pas longtemps, ça fait à peu près 6 mois, 1 an en fait, j'ai découvert ça un peu sur le tard.
As-tu progressé en 6 mois, 1 an par exemple ?
En photo, oui, en regardant mes photos en fait... Moi, j'essaye de faire plus attention au cadre, à la lumière, tout ça. Enfin, maintenant, les appareils photos sont numériques, règlent tous les paramètres automatiquement, donc voilà. Mais oui, j'ai fait quelques progrès en photo, ouais. Et puis c'est ludique, quoi.
Une autre question, tu fais de la musique, je crois, tu interprètes des chansons.
Ouais. Alors ça, j'adore ça. Ça vient de beaucoup, beaucoup plus loin. J'ai acheté ma première guitare, j'avais 17 ans en fait, et puis c'est quelque chose qui m'a tout le temps accompagné au gré des rencontres que je faisais. On me montrait des trucs, des accords, voilà.
Ok. Alors personnellement, moi, j'écris depuis que je suis petit. J'ai commencé par de faire des petites chansons, puis j'ai donné ensuite mes textes à des amis qui les mettent en musique et qui les chantent, et ça donne un autre objectif au bout d'un certain temps d'avoir cette finalité là où les gens portent ton texte, ce qui est super chouette quoi. Après voilà quoi, ça reste de l'amateur, mais c'est super valorisant quoi.
Oui, d'ailleurs on avait pu entendre, je crois il y a 3 ans dans Citoyen, une de tes créations.
Ouais, en collaboration.
D'accord.
Voilà.
Mais une chanson dont tu avais écrit les paroles.
Exactement. Voilà. On va enchaîner. Donc, de l'art à la thérapie, il n'y a qu'un pas. Nous avons pu approcher une art-thérapeute évolutive, Anne Le Dorlot. Voici un extrait, excusez-moi. C'est une interview de Luz.
Vous êtes art-thérapeute, c'est bien ça ?
Oui, art-thérapeute évolutive.
Ah, pourriez-vous nous préciser le mot évolutive ?
Oui, je vais vous préciser. En fait, dans l'art-thérapie, il y a deux branches. Il y a l'art-thérapie dite traditionnelle, où en fait la personne est amenée à s'exprimer par le dessin, la danse, la peinture, l'écriture, mais on ne va pas interpréter la production en fait. C'est juste un moyen pour libérer des émotions, des pensées et juste s'exprimer par l'art. L'art-thérapie évolutive, moi j'ai fait une formation de 3 ans et j'étais formée à l'analyse symbolique des dessins parce que je travaille principalement avec le dessin au pastel et aussi avec l'écriture. Et donc j'ai été formée au symbole. Et donc l'art-thérapie évolutive, on va faire évoluer le dessin en fait, on va le faire transformer. On peut le faire découper certaines parties, on peut être amené à proposer de déchirer ou de brûler le dessin aussi, quand il y a, par exemple, une souffrance ou une émotion forte comme la colère ou la tristesse qui ont été déposées dans le dessin, on va proposer de le brûler le dessin pour faire un autre dessin. On va proposer à la personne de faire un dessin sur la paix, le calme, la joie, qui sont des qualités. C'est ça la différence, en fait, entre les deux. Donc moi, alors il y a l'accompagnement individuel et l'accompagnement collectif. En accompagnement individuel, une séance a duré 1h30. Je propose à la personne de faire une séance tous les 15 jours pendant 3 mois, donc ça fait 6 séances. Et au bout des 6 séances, on fait un bilan. On revoit tous les dessins et on voit toute l'évolution qu'elle a eue pendant ces 3 mois-là. Et est-ce que ça, les prises de conscience ou pas, ou les blocages ou les résistances. Donc il y a un temps, sur 1h30, il y a un temps d'échange. Pour que je sache comment elle va, comment elle se sent au niveau de ses pensées, de son corps et de ses émotions. Après, il y a une proposition de dessiner. Donc, il y a un temps où la personne pose dans le dessin. Après, on regarde le dessin ensemble. Moi, je rentre dans l'analyse symbolique. Et là, je propose soit le brûlage pour faire un autre dessin, soit du découpage, parce qu'on va apprendre, comment dire. Dans le dessin, il y a des éléments qui apparaissent, qui sont des éléments d'information, et des fois, il y a un élément qui ressort, qui est intéressant, mais qui est voilé. Donc, je vais proposer de découper la partie qui me semble intéressante, de la décoller sur une autre feuille, et je vais demander à la personne de poursuivre le dessin. J'ai une
question. Mais si la personne, par exemple, fait un dessin où elle montre sa souffrance, mais qu'elle ne veut pas le brûler, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ?
D'accord, c'est qu'elle n'est pas prête, donc on ne brûle pas. Moi, je ne fais que des propositions. La personne, elle est vraiment libre de faire ce qu'elle veut. Par contre, j'explique, c'est très important que j'explique toujours à quoi ça fait référence pour moi en elle, que je valide tout le temps en lui posant des questions et en disant voilà, que pour moi, ça part de telle ou telle chose, et que du coup, elle valide en disant oui, c'est, voilà, qu'il y a une résonance qui se crée en elle. Et à partir du moment où ça se fait et qu'elle est d'accord de lâcher, à ce moment-là, je propose le brûlage. Et le brûlage, c'est symbolique, c'est libérateur. C'est quand on brûle, on nomme en fait ce qu'on lâche et on accueille la qualité qu'il y a derrière. Et j'amène les personnes en fait à être dans un positionnement de non-jugement par rapport aux événements, par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport à eux-mêmes ou par rapport aux expériences qu'ils vivent avec les autres. Pour élever tout le temps leur expression et puis leur pensée. Et quand c'est en groupe, je propose à chaque personne d'exprimer ce qu'elle a envie. Et après, je propose un dessin à chaque personne. Et après, on met tous les dessins ensemble. Et je propose une analyse pour chaque personne. Et je fais un pont entre les dessins. Parce qu'il y a toujours un point focal. En fait, ce que nous, on appelle le point focal, c'est ce qui relie le groupe. Donc voilà, je travaille avec ça aussi. Et donc, sur les dernières séances que j'ai faites au CHU, j'ai proposé des dessins collectifs. Donc là, les personnes vont décider ensemble de symboliser, de faire un dessin, et chacun va prendre sa place. Dans le dessin, on va faire tourner les personnes pour que chacun ait travaillé sur l'harmonie et une qualité. Et là, c'est un autre travail encore de dessiner ensemble, en fait.
Merci. Est-ce que dans votre formation, vous avez eu un diplôme ?
J'ai une certification parce que la formation, c'est l'école Plénitude qui se trouve au Leroux-Bottereau en Sud-Loire. Et le concept d'art-thérapie évolutive a été créé par Marie-Odile Brett, qui est aussi écrivain et enseignante de l'école. Et c'est elle qui m'a formée avec Alain Brett aussi, qui est son époux. Donc c'est une formation qui dure 3 ans, qui n'est pas reconnue par l'État comme les autres écoles. C'est une école privée. Et donc on a une certification au bout des 3 années.
En quoi l'art peut-il être une thérapie ?
En fait, c'est toute forme d'expression. À partir du moment où elle vient de l'intérieur et d'un espace, de quelque chose qui est profondément en nous et dont qu'on a besoin d'exprimer, à partir du moment où cette expression-là prend une forme, qu'elle apporte quelque chose à la personne, elle est pour moi thérapeutique. Parce que tous les artistes que je connais, et mon père est un artiste, un aquarelliste et musicien, en fait, la forme de l'expression artistique est poussé de l'intérieur, si j'ai envie de dire, c'est qu'il y a un besoin, une nécessité parfois absolue de s'exprimer, alors que soit quel que soit le médium en fait, hein. Parce que le médium ça peut être le corps à travers la danse aussi, ça peut être le chant et on peut travailler beaucoup de choses avec la voix et oser l'expression par le chant. La thérapie, pour moi, c'est la prise de conscience en fait. Il y a le moyen de l'expression par l'art, qui est ce qu'on va sortir de soi pour le déposer. Et puis, ce qui est thérapeutique, c'est le sens pour moi. Le fait que nous, par exemple, nous analysons, nous interprétons les dessins ou la création, ça permet, parce qu'on fait ça, parce que le symbole, c'est le langage de l'inconscient. Et donc, en traduisant l'expression symbolique, par exemple dans un dessin ou dans un texte, on va mettre en lumière ce qui est dans l'inconscient de la personne, on va dévoiler pour qu'il y ait une prise de conscience qui se fasse et qu'elle puisse commencer une évolution, une transformation, en tout cas un meilleur accès à la connaissance d'elle-même. Et c'est ça pour moi qui est thérapeutique.
Quand quelqu'un est psychotique, ça lui permet d'être créatif. C'est-à-dire que, par exemple, il y a Philippe Cadic qui prenait beaucoup de substances hallucinogènes comme l'acide pour être psychotique. Enfin, c'était peut-être pas le but recherché, mais ça le rendait comme ça, quoi. Et quelque part, sa psychose lui permettait ensuite d'écrire par rapport à ces sortes de délires.
C'est comme beaucoup d'artistes qui pensent qu'il faut être dans une profonde souffrance pour pouvoir exprimer quelque chose de sublime, de beau. Moi, je pense pas. Je pense qu'on peut exprimer la beauté qu'on a à l'intérieur de soi et qu'il ne faut pas passer par la souffrance ou la psychose ou un état psychique particulier pour devenir artiste, en fait. Je pense que c'est une croyance.
Il n'y a pas d'artiste malheureux.
Non, pas forcément. Je pense que justement, on doit transformer ça. Moi, ce que je fais, c'est que je travaille sur les systèmes de croyance. C'est-à-dire que je vais essayer de comprendre quel est le système de croyance de la personne, quelles sont ses croyances, pour essayer de... Et en fait, on a des croyances que nous, on dit limitatives et qui nous bloquent dans notre expression. Donc, je travaille là-dessus, sur les croyances qui limitent et qui bloquent, pour dévoiler, pour que lever le voile qui empêche la personne de pouvoir vraiment être ce qu'elle est, et pour, en levant ces voiles-là, d'aller travailler sur les qualités d'être, ce que nous on appelle les qualités d'être de la personne, et pas en levant toujours le voile de ce qui est souffrant, de ce qui nous limite, etc., pour arriver vraiment à une connexion avec soi qui va être différente, mais pas forcément dans la souffrance.
Le terme d'art-thérapie n'est-il pas utilisé à tort et à travers par moment ?
L'art-thérapie, c'est récent quand même. Ça n'existe pas depuis si longtemps que ça. Hein. C'est dans les années 50 en France, avec la rencontre avec justement le milieu artistique et le milieu psychiatrique. Quand quelque chose naît et est découvert, il va être utilisé de plein de façons différentes, parce que chacun va s'approprier en fait. C'est comme un outil, c'est comme une façon d'explorer, et chacun va l'utiliser à sa façon. Et puis après, plus ça va grandir, plus ça va prendre de l'ampleur et peut-être plus de structure aussi. Et à un moment donné, quand un concept comme celui-là grandit et rentre dans le collectif, je pense qu'effectivement, il peut être ce qu'on appelle galvaudé et utilisé de toutes les façons possibles. Mais ça veut dire que c'est en train de rentrer dans l'inconscient collectif, en fait. C'est quelque chose, peut-être d'ici 20 ou 30 ans, où l'art-thérapie, ça fera complètement partie de notre vie, si vous voulez. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de précis, de particulier, de professionnel. On voit plein de mandalas, par exemple. Avant, il y a quelques années, on ne parlait pas d'art-thérapie, on ne voyait pas des livres là-dessus. On en voit de plus en plus, donc c'est plutôt bon signe, parce que c'est en train de rentrer dans le langage commun, si vous voulez. Donc ça, c'est plutôt bon signe.
Alors, comment est-ce que l'art-thérapie se complète-t-elle avec la thérapie du psychiatre ? Travaillez-vous ensemble ?
Ah non, j'aimerais bien. Je travaille pas avec des psychiatres. Mais j'aimerais bien, en fait, je pense qu'on n'a pas la même vision. Quand j'ai commencé à travailler avec les malades chroniques, je leur ai dit que je les accueillais en tant que personne et que moi, je voyais pas des malades. Je suis des gens qui sont en dépression, des gens qui sont mélancoliques, qui sont suivis en psychiatrie. Je les accueille comme des personnes, en fait. Vous voyez ? Ça, c'est très important pour moi.
Est-ce que l'art thérapie est accessible à tous?
Oui. Le plus jeune enfant avec lequel j'ai travaillé, il avait 3 ans. Donc à 3 ans, déjà, il bouge partout. Et puis, il fait des gribouillages. Mais en tout cas, c'est un petit peu comme faisait Dolto, c'est-à-dire je vais avoir, parce qu'un enfant de 3 ans, les tout petits, jusqu'à 7 ans, ils sont toujours avec un parent. C'est-à-dire, je ne les prends jamais tout seul. Parce que je travaille sur le lien parent-enfant, parce que ça, c'est fondamental. Et en fait, je vais observer comment il bouge, s'il est collé à son père ou à sa mère, si à un moment, il va venir près de moi. S'il va prendre de la distance à un moment donné, ce qu'il va dire avec son corps, sa façon de se positionner, avec son langage. Et j'analyse tout, enfin, je regarde en symbolique ce qui est exprimé. Il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour faire de l'art-thérapie.
Quels sont les bienfaits et quels résultats constatez-vous ?
Par exemple, une des personnes que j'ai suivies là au CHU de Nantes, qui a la fibromyalgie depuis une vingtaine d'années, et donc qui est ce qu'on dit, c'est des personnes qui sont douloureuses, donc qui ont des douleurs en permanence dans leur corps. Donc ça va être plus les épaules, le dos, le bassin. Et donc en fait, on a fait tout un travail ensemble de libération et de compréhension de comment elle fonctionnait de l'intérieur, en fait, par rapport à ce qu'elle a vécu. Donc moi, c'est ce que j'appelle le système de protection. Et en fait, elle m'a apporté un témoignage il n'y a pas longtemps, comme quoi c'était la première fois, par exemple, depuis des années, qu'elle n'avait pas de douleur pendant 3 jours, et que la douleur partait, et qu'en fait, comme il y a une absence de douleur, elle se remet en mouvement, et elle repart pour faire des choses qu'elle ne faisait plus du tout, parce qu'avant, elle a été tellement dans la douleur qu'elle anticipait là où elle allait aller, et elle limitait ses voyages et ses déplacements, par exemple. Et en fait, elle a compris, donc c'est ce qu'elle m'a rapporté, qu'elle créait elle-même sa douleur, qu'elle crée des situations où en fait elle n'allait pas prendre soin d'elle, où elle allait faire les choses de manière un petit peu brusque, et qu'elle allait créer la douleur elle-même dans son corps, et que c'était une façon d'être avec elle-même qu'elle avait depuis très très longtemps. Donc voilà, c'était un exemple. Après, il y a des libérations émotionnelles qui sont vraiment un apaisement dans la durée. Une autre personne avec laquelle j'ai travaillé, qui a la sclérose en plaques, donc une jeune femme de 30 ans et qui était complètement dans un... Quand elle a eu l'annonce du diagnostic, qui était vraiment très 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 mal, qui pleurait tout le temps. En fait, elle n'arrivait plus à parler. Parce que c'était très très dur à accepter ce diagnostic. On a travaillé ensemble, donc je l'ai fait dessiner. Ça, c'est par contre une personne qui est une artiste. Avec les artistes, c'est différent parce que comme ils formalisent bien, il y a une précision dans l'expression qui est différente en fait. Donc il faut faire attention de ne pas être subjugué par ce qu'ils vont faire quand c'est beau, quand c'est bien fait, mais toujours regarder en symbolique et pas regarder en esthétique. En fait, moi je regarde tout en symbolique en permanence. Voilà, donc cette personne-là, au bout de 10 séances, là on en est arrivé à la 9e, quasiment presque 10, elle a accepté le diagnostic parce qu'elle le refusait. Elle a accepté le diagnostic, elle a fait des démarches auprès de la CPAM pour demander un aménagement de son temps de travail alors qu'avant elle c'était hors de question. Voilà, elle a mis des choses en place dans sa vie, elle commence à essayer de vouloir remettre des choses en place au niveau de son alimentation, de faire un peu de sport, voilà. Et du coup, il y a eu un apaisement et elle peut parler maintenant sans pleurer. Et elle peut parler de sa maladie sans pleurer, ce qui n'était pas le cas avant, en fait.
J'ai une dernière question. Si on souhaite, parce que j'imagine qu'il y a des gens intéressés, souhaite faire appel à un art-thérapeute, comment il fait?
C'est une bonne question. Pour avoir contact avec les art-thérapeutes évolutifs qui ont fait la même formation que moi, il faut contacter l'école Plénitude. Et eux, en fait, il y a le site. Et sur le site, il y a toute la liste des art-thérapeutes qui ont été certifiés par l'école et qui travaillent à Nantes. Alors moi, je travaille pour le CHU et je travaille pour la Fabrique Créative de Santé, que vous devez connaître. Qui a une association qui est créée depuis 4 ans et qui propose des médiations comme l'art-thérapie, le massage ayurvédique, le shiatsu, il y a le pilate aussi, où on est sur le travail de conscience avec l'art-thérapie et puis le travail sur le corps, pour les malades chroniques. Donc moi, j'interviens dans ce cadre-là en art-thérapie. Là, je fais partie d'un projet de recherche qui s'appelle le projet EVAD, où en fait, il y a eu des médiations proposées sur la gestion des émotions et comment on peut gérer les émotions à travers ces médiations-là, en fait, et les libérer dans le corps et dans le, voilà, chez la personne. Et sinon, j'ai un cabinet du côté de Pyrmil où je fais des séances individuelles aussi. Je travaille avec une association qui s'appelle Diabattitude 44. Là, j'accompagne des familles, donc on travaille avec les enfants et donc j'ai une collègue art-thérapeute qui prend en charge les enfants, moi je prends en charge les parents. Et on a fait un projet d'un an et demi, c'est vraiment... Et on a travaillé sur la relation à l'enfant et à la maladie, et les parents aussi, et on a fait tout un travail, une étude ensemble pour travailler sur la famille en fait. Et sur les liens familiaux, et c'était vraiment passionnant.
Merci beaucoup Anne.
Et merci à vous de m'avoir accueillie.
Voilà, c'était Anne Le Dorlot, interviewée par Luz. Quelqu'un a envie de réagir? Emmanuel, toi qui as fait l'interview, qui l'a enregistré.
Oui, c'est-à-dire que l'art-thérapie se retrouve, comme disait Madame Le Dorlot, dans les magasins, c'est-à-dire dans les petits fascicules où on dessine. Et donc, ça voudrait dire que l'art-thérapie ne serait pas uniquement destinée aux gens qui souffrent de troubles psychiatriques, mais aussi pour les gens en général.
Oui, parce qu'il y a aussi l'exemple d'une femme qui souffre de fibromyalgie, je crois. Oui. Et ça, c'est pas un problème psy, quoi, c'est un problème physique. Moi, je connais quelqu'un qui souffre de ça, et elle le dit bien qu'elle a réussi, grâce à ce travail, à lui faire accepter sa maladie, et qu'elle ne pleure plus quand elle en parle. Et c'est ce que c'est une bonne.
Ouais. C'est-à-dire que je pense que quand on va de l'avant en fait et que on essaye comme ça de trouver des moyens pour aller mieux, l'art thérapie peut en faire partie. Mais peut-être que si quelqu'un veut sortir de ses tourments, l'art thérapie peut être aussi une solution.
Oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, c'est pas reconnu par les médecines traditionnelles. Laurent, toi qui tu es ouais, c'est pas reconnu par les médecines traditionnelles. Elle a dit qu'en fait, c'est basé sur l'école de la quoi déjà.
Oui, mais après, les psychanalystes non plus ne sont pas médecins. Hein.
C'est vrai.
C'est pas.
C'est vrai.
Les psychiatres le sont, mais les psychanalystes le sont pas en fait. Donc il y a beaucoup. C'est vrai qu'il y a pas mal de thérapies parallèles comme ça qui sont pas reconnues quoi. C'est pour ça qu'il faut faire attention parce que peut y avoir des charlatans, peut y avoir des.
J'aurais bien voulu savoir comment on paye, quels sont ses tarifs et comment ça se passe. J'aurais bien aimé savoir, mais ça reste.
Je pense que si elle travaille dans le cadre de l'hôpital, c'est pris en charge par l'hôpital à mon avis.
Donc c'est pas reconnu par la médecine traditionnelle, mais c'est quand même un complément.
Ouais, c'est un complément.
D'accord.
Ouais, comme l'homéopathie.
D'accord. Ou... Et je sais que j'ai lu un truc il y a quelques jours, comme qu'en fait beaucoup de gens ont un peu peur de la thérapie avec un psychiatre, de la psychanalyse, et se dirigent vers l'art thérapie, qu'elle soit traditionnelle ou évolutive. J'ai lu ça sur internet, quoi. Et c'est intéressant parce que c'est vrai que ça fait peur et ça renvoie une image négative à la psychiatrie. Donc les gens, l'art thérapie, ça a un côté beaucoup plus soft.
Ouais, ouais.
Tu vois ce que je... Ouais, voilà, quoi.
Oui, c'est-à-dire que l'art pourrait être une thérapie, c'est ça ?
Oui, tout à fait, oui, tout à
fait. C'est-à-dire que quand quelqu'un écrit ou de lui-même, comme ou fait des dessins de lui-même, ça permet en fait de décharger un petit peu cette angoisse ou cette dysfonctionnement qu'il a.
Oui, parce qu'après, Anne Le Dorlot ensuite, elle analyse les choses et c'est le sens qui est thérapique, comme elle dit. Et ça amène à une meilleure connaissance de soi-même.
D'accord.
Voilà. Alors on va enchaîner avec une autre interview réalisée par Emmanuel, d'un artiste qui sera suivi de l'école de la poésie par Léo Ferré, c'est une chanson. Emmanuel, veux-tu nous présenter le témoignage de Michel en quelques mots?
Oui, c'est Michel Lostis, c'est un poète. Il a été publié, et donc on trouve ses bouquins dans les bouquineries. Voilà, donc c'est un ami.
Et il vient au
GEM
aussi.
Il vient au
GEM,
c'est ça ?
Non, il vient pas au
GEM. Ah, il vient pas au GEM, d'accord.
Il a dit qu'il y viendrait peut-être après son passage.
Oui. Il est venu au GEM, il a participé à des activités, mais là, il n'y est plus.
Ok, très bien. Bon, voici son interview.
Ben, je m'appelle Michel, j'ai 53 ans, j'écris et je publie depuis bientôt 20 ans, depuis 98. Date à laquelle j'ai rencontré l'édition du Petit Pavé du côté d'Angers. Et Voilà.
On voudrait savoir, comment as-tu commencé en poésie ?
J'ai commencé sur les bancs de l'école quand je m'ennuyais pendant des cours de maths, mettons. Je prenais des feuilles et j'écrivais des poèmes.
Je voulais savoir si tu puises dans ta souffrance pour trouver un matériau à ton art.
Oui, je puise énormément dans ma souffrance et d'ailleurs j'ai écrit un aphorisme qui est « Créer, c'est creuser la douleur ». Voilà, donc qui résume un petit peu ce que tu me demandes.
Oui, ta source d'inspiration, oui.
Ma source d'inspiration, c'est essentiellement les lectures, la vie de tous les jours. Voilà, je vois un peu la poésie comme Prévert la voyait, quoi, un petit peu comme ça.
Une poésie du quotidien.
Une poésie du quotidien, tout à fait. Une poésie du quotidien ancrée dans la vie. Depuis plusieurs années, je fréquente et j'organise des lectures à la Salvas avec Michel Valmer. Et je connais bien Éric Simon, qui est régulièrement interviewé par JetFM. J'ai lu à peu près tout ce que... J'ai une certaine idée de la poésie en fonction des lectures que j'en ai eues. J'aime beaucoup Pablo Neruda, par exemple. Prévert, les symbolistes, j'ai commencé par Baudelaire, Rimbaud, naturellement Verlaine, ainsi de suite. J'ai aussi beaucoup pratiqué, lu les Américains comme Brotigan ou les Anglo-Saxons, Brotigan. Puis tous les poètes du quotidien qui participent à toutes les bonnes revues de poésie qu'on trouve ici dans l'Hexagone. Je pense à des revues comme Verso, comme En Poésie, Traction Brabant, auxquelles je participe régulièrement. Voilà.
Comment considères-tu la poésie dans ton processus d'évolution psy ? Et penses-tu que c'est une bonne thérapie ?
Très bonne question, Emmanuel. Moi, je suis parti du principe, ne trouvons pas de solution étant confronté au problème du manque de réponse, j'ai relu Freud, j'ai relu 5 leçons sur la psychanalyse. Tout simplement, je me suis intéressé au processus de sublimation, c'est ce qui m'est arrivé. Parfois on a tendance à confondre la sublimation et l'activité créatrice, et le jeu, tout ce que la création draine. En fait, ça a consisté à recréer des désirs quand les désirs étaient éteints par la pratique de la poésie. Et le processus de sublimation permet de créer des désirs nouveaux et la poésie, dans ce cadre, devient une nouvelle naissance, en fait, voilà.
Justement, par rapport à ça, est-ce que tu penses que tu te risques en poésie ? Tu risques un peu est-ce que tu es vraiment en question ?
Je risque ma peau à chaque recueil, puisque chaque recueil est une nouvelle naissance, effectivement. Et je crois que c'est entre guillemets, puisque certains poètes terminent mal, mais je connais beaucoup de poètes qui sont confrontés au mal-être, j'en connais énormément, qui même si... n'adhère pas à des institutions comme le Nouveau Cap, connaissent un grand mal-être, voire sont dépressifs. C'est très courant en poésie.
Donc, ça veut dire que tu penses qu'il y a une poésie de la souffrance psychologique ?
Une poésie de la souffrance, peut-être pas, mais je pense qu'il y a un drame. À un moment donné, la poésie, elle naît souvent, très souvent d'un drame, soit avant, soit après. On ne sait pas ce que c'est exactement. Et on le sait vraiment que quand on y est confronté à un moment ou à un autre. Moi, ça a été la dépression. J'ai beaucoup souffert, surtout dans ma jeunesse. Grâce à la poésie, je vois la vie autrement maintenant.
Je pense que la poésie redonne confiance et permet de se trouver.
J'en suis sûr.
La poésie a sûrement guéri quelques blessures. Est-ce que tu as l'impression que, en fait, c'est des blessures narcissiques essentiellement ?
Il paraît que les blessures psychologiques sont très souvent des blessures narcissiques. Donc effectivement, la poésie peut aussi permettre, par la même occasion, de retrouver une certaine estime de soi qu'on avait perdue et qu'on retrouve grâce aux mots, quoi. Parce que faut pas oublier que la poésie, avant tout, c'est les mots. Voilà.
Par rapport toujours au processus psychiatrique, est-ce que tu as connu ou est-ce que tu as l'impression qu'un atelier de poésie en hôpital psychiatrique pourrait marcher ? Est-ce que tu as une idée dessus ?
Ah bah oui, mais je pense qu'au contraire, c'est le lieu même, et je pense que beaucoup de poètes pourraient dire, ou je pense plutôt comme des institutions comme le Nouveau Cap, où c'est encadré, c'est dans la cité. Je sais pas si d'isoler un atelier d'écriture, ou alors dans une salle à part, en dehors de la salle du lieu de soins, à côté quoi. Quelque part à côté, et voilà.
J'ai appris que Rimbaud avait été sur les barricades. Est-ce que tu pourrais dire qu'il y a une révolution des poètes ?
Il y a certainement une révolution des poètes. En fait, il y a une infortune permanente des poètes, et Rimbaud disait justement « Libre soit cette infortune », et donc elle peut s'exprimer effectivement par la Révolution, quand Rimbaud est allé sur les barricades pendant la Commune de 71, c'est ce qui fait dire que le poète se doit d'être transgressif et révolutionnaire à un moment donné ou à un autre.
Donc le poète n'est pas seulement dans sa bulle, il est aussi dans la société, il a un rapport avec les gens.
Oui, je crois que... Alors, sincèrement, la poésie ne se fait pas dans les salons, ça on le sait maintenant depuis très longtemps. La poésie, elle se fait justement plutôt dans des lieux comme le Nouveau Cap ou enfin, ce genre d'endroit, parce que c'est ce que Prévert disait, la poésie, c'était l'affaire de ceux qui sont délaissés, quoi. La poésie, elle appartient avant tout à ceux qui n'ont rien d'autre qu'elle pour s'exprimer.
Maintenant, quelle place a la poésie actuellement dans la société ?
On dit qu'elle a peu de place, qu'on la voit pas, qu'elle est invisible, ce qui est un peu vrai. Mais je crois que la poésie a une très très grande place dans le cœur de beaucoup de gens. Et notamment, on le voit quand on va dans les écoles, les enfants lui accordent encore une grande, grande, grande place. Et la poésie, elle a une grande place, et tout le monde le sait, mais personne ne le dit parce qu'elle ne rapporte rien, quoi. Enfin, elle ne rapporte que des choses très symboliques.
Je voulais aussi poser la question de savoir, tu as très peu parlé dans ton interview là, du parcours du combattant que tu as dû faire pour être un petit peu connu. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Parce qu'il y a tellement de poètes en herbe qui voudraient publier mais qui ne peuvent pas.
Le parcours du combattant, j'ai commencé à publier en 98 au Petit Pavé. J'ai eu de la chance, à cette époque-là, le Petit Pavé commençait à fonctionner sous forme d'association. Donc je commençais à percevoir une pension et je me suis dit que j'avais plus rien à perdre. Donc j'ai envoyé mes textes et j'en ai trois qui ont été pris pour une anthologie. Et ce qui, moi, m'a donné beaucoup confiance après. Mais je pense que c'est pas de mon parcours qu'il faut que je parle, c'est plutôt de toutes ces revues qui existent et foisonnent et auxquelles il faut adresser des poèmes et au fur et à mesure se fabriquer un chemin d'existence, un chemin en poésie, c'est fantastique. Il existe en une trentaine ou une quarantaine de revues qui sont valables et qui sont prêtes à accueillir des gens qui sont passionnés, qui aiment ça et qui écrivent pas trop mal, quoi. Et c'est moins dur qu'on ne le croit. Je vais vous lire un extrait, ouais. J'écris beaucoup d'aphorismes, j'écris énormément d'aphorismes. On consomme le désespoir à coups de rire et de larmes. Il n'y a que le poète et le singe qui le consomment aussi à coups d'innocence. Douter, douter, pour encore plus douter, pour ne plus savoir, pour savoir encore plus. Douter que l'on sait, car au fond, il y a toujours quelque chose qui sait. Est-ce que tu sais savoir ? M'a demandé une petite fille de 4 ans. Elle savait que savoir cela, je ne le pouvais, la question était trop large. Alors j'ai douté, et j'ai dit si, je sais, mais je ne sais pas ce que c'est que de savoir ou de ne pas savoir. La vie, quoi.
La poésie contemporaine ne chante plus, elle rampe. Elle a cependant le privilège de la distinction. Elle ne fréquente pas les mots malfamés, elle les ignore. On ne prend les mots qu'avec des gants. Un menstruel, on préfère périodique. Et l'on va répétant qu'il est des termes médicaux qui ne doivent pas sortir des laboratoires et du codex. Le snobisme scolaire, qui consiste en poésie, en employant que certains mots déterminés, à la priver de certains autres, qu'ils soient techniques, médicaux, populaires ou argotiques, me fait penser au prestige du rince-doigt et du baise-main. Ce n'est pas le rince-doigt qui fait les mains propres, ni le baise-main qui fait la tendresse. Ce n'est pas le mot qui fait la poésie, mais la poésie qui illustre le mot. Les écrivains qui ont recours à leurs doigts pour savoir s'ils ont leur compte de pied ne sont pas des poètes, ce sont des dactylographes. Le poète d'aujourd'hui doit être d'une caste, d'un parti ou du tout Paris. Le poète qui ne se soumet pas est un homme mutilé. La poésie est une clameur. Elle doit être entendue comme la musique. Toute poésie destinée à n'être que lue et enfermée dans sa typographie n'est pas finie. Elle ne prend son sexe qu'avec la corde vocale, tout comme le violon prend le sien avec l'archer qui le touche. L'embrigadement est un signe des temps, de notre temps. Les hommes qui pensent en rond ont les idées courbes. Les sociétés littéraires, c'est encore la société. La pensée mise en commun est une pensée commune. Mozart est mort seul, accompagné à la fosse commune par un chien et des fantômes. Renoir avait les doigts crochus de rhumatisme. Ravel avait dans la tête une tumeur qui lui suça d'un coup toute sa musique. Beethoven était sourd. Il fallut quêter pour enterrer Béla Bartok. Rutebeuf avait faim. Villon volait pour manger. Tout le monde s'en fout. L'art n'est pas un bureau d'anthropométrie. La lumière ne se fait que sur les tombes. Nous vivons une époque épique et nous n'avons plus rien d'épique. La musique se vend comme le savon à barbe. Pour que le désespoir même se vende, il ne reste qu'en trouver la formule. Tout est prêt. Les capitaux, la publicité, la clientèle. Qui donc inventera le désespoir? Avec nos avions qui damnent le plomb au soleil. Avec nos magnétophones qui se souviennent de ces voix qui se sont tues. Avec nos âmes en rade au milieu des rues. Nous sommes au bord du vide, ficelés dans nos paquets de viande, à regarder passer les révolutions. N'oubliez jamais que ce qu'il y a d'encombrant dans la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. Les plus beaux chants sont des chants de revendication. Le vers doit faire l'amour dans la tête des populations. À l'école de la poésie, on n'apprend pas. On se bat.
Voilà, c'était Michel. Et là, c'était Léo Ferré. Le nouveau cap, en précision dont parle Michel, c'est bien le GEM, en fait, le groupe d'entraide mutuelle, le nouveau cap. Voilà pour la précision. Y a-t-il des artistes au GEM? Y en a-t-il?
Oui, oui, il y a des... Oui. Je t'en prie.
Il y a Frédéric, Frédéric Koleskovitch, qui fait des BD et qui expose en ce moment, donc qui appartient au GEM, qui est adhérent au GEM, et qui expose ses bandes dessinées en ce moment dans le local. Donc tout le monde peut venir, c'est libre, c'est open.
Donc je crois que c'est 22 rue Marcel Paul, 44 000 Nantes, c'est à côté de la gare sud.
Voilà. Voilà. À 5 minutes de la gare sud.
À 5 minutes de la gare sud. Mmh. Laurent, tu voulais dire quelque chose?
Oui, je voulais dire qu'au GEM, il y a aussi des activités artistiques qui sont dirigées ou animées par des adhérents du GEM. Il y a un atelier... Un atelier dessin, il y a un atelier écriture, je crois que j'avais entendu parler qu'il allait peut-être se créer un atelier photo, enfin voilà, donc...
Et on a des artistes en plus, on en a quelques-uns.
Voilà.
Donc, je vais parler d'un autre artiste alors, Laurent, parce que la musique... Tu vas nous faire une reprise, je crois. Qu'est-ce que c'est?
Ouais, alors pour cette dernière émission de la saison, j'ai choisi une des chansons les plus populaires de Jacques Brel, en fait. C'est une chanson qui n'a été enregistrée qu'en public à l'Olympia et qui est sortie en 1964. Donc vous l'aurez deviné, c'est la chanson Amsterdam. C'est une chanson qui a été reprise, entre autres, par Parabellum, C'est un groupe de punk music, une version très sombre, et par David Bowie dans une version anglaise. Si vous avez l'occasion d'écouter, c'est assez marrant. Donc ici, j'en propose une version assez rapide avec les paroles originales de Jacques Brel, en fait. Voilà.
Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent. Les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment. Des oriflammes le long des bergements. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent. De bières et de drames aux premières lueurs. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent. La chaleur épaisse des longueurs d'océan. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lutte, bouffer des haubans et ça sent la morue. Jusque dans le cœur des frites que la grosse main vise à revenir en plus. Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rôdant. Dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui dansent en se frottant la panse. La panse des femmes est tournée dans comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur bâtard jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui boivent et qui boivent et reboivent et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, d'Hambourg d'ailleurs, et enfin ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, ils se plantent le nez au ciel, ils se mouchent dans les étoiles et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles.
Ouais, wouh! C'était Laurent.
Merci.
Voilà. Alors, on va continuer avec Emmanuel. Il y a de grands artistes qui ont souffert de problèmes psychiatriques. Et là, on a un artiste un peu moins connu, dont Emmanuel, une artiste peintre dont Emmanuel va nous parler.
Voilà. Donc, elle a écrit un livre. Il s'appelle Mary Barnes, un voyage à travers la folie. Donc, c'est le titre du livre écrit aux premières personnes par Mary Barnes et son psy Joseph Burke. Anglaise, née en 1923, morte en 2001, Mary Barnes décrit sa mère comme une femme qui ne désirait pas d'enfant, mais trouvait dans l'enfantement l'expiation d'avoir commis l'interdit de la relation sexuelle. Elle était l'aînée de deux sœurs et un frère, lui aussi souffrant de schizophrénie. Son père et sa mère entretenaient des relations à l'apparente bonté, mais réellement froides. Mary Barnes considère que sa vie familiale ressemble à la glace fragile. Elle réagit au gel ordinaire par la colère et la violence. Elle détestait tout le monde. Elle détestait quand son père lui coupait les cheveux. Elle détestait sa mère. Elle se détestait elle-même. Son père travaillait comme électricien, tandis que sa mère restait à la maison. Sa mère qui dégageait une sorte de répulsion envers sa famille et son père qui pouvait se montrer exubérant lorsqu'ils sortaient tous ensemble. Pourtant, plus tard, en visite dans son centre de soins Kingsley Hall, elle s'assortira davantage avec sa mère. Elle et son frère cherchent à s'évader de leur cauchemar familial, mais la schizophrénie survient pour le remplacer, et à 42 ans, Mary Barnes déclare la maladie, qu'elle symbolise par ça, en lettres majuscules, sa méchanceté. Mary Barnes commence à dessiner sur les conseils de son psy Joseph Burke. Elle s'inspire de ses histoires, l'œuf sur la mer ou le vent et les fleurs. Elle modelait des bébés avec ses excréments. Et les mythes chrétiens lui ont soufflé l'un des tableaux installés dans la salle à manger de Kingsley Hall. Un prof de Cass College lui conseille de continuer sur sa voie sans figer son originalité dans la technique. Elle continue à peindre sans prendre de cours. Les critiques sont élogieuses, les admirateurs pouvant être profondément bouleversés par la puissance de son œuvre, qu'ils ressentent intensément, autant les nombreux peintres et acteurs que différents psys venus d'ailleurs. Au final, Marie guérit-elle? Son psy, Joseph Burke, répond par des questions que tout le monde pourrait se poser. Marie peut-elle se faire facilement des amis? Peut-elle vivre et travailler de manière créatrice? Peut-elle trouver un sens et une satisfaction à sa vie? Et nous, citoyens, comment pouvons-nous exprimer l'inexprimable hors de la société et pourtant à travers elle? Mary Barnes, Un voyage à travers la folie, acheté en bouquinerie, mais le livre est toujours en stock chez les distributeurs. Ses peintures sont visibles sur un site www.marie-barnes.co.uk. Wikipédia indique qu'elle a écrit deux autres ouvrages en collaboration, l'un avec David Edgar, dont Mary Barnes est le titre, et l'autre avec Anne Scott, Something Sacred, Conversation, Writings, Paintings. Voilà ma promotion.
Bien Emmanuel, ta belle chronique. Bah ouais, elle est bien. Je vais continuer. On va finir par un morceau. Entre art et souffrance, il y a de nombreux liens. Le rap est un art. Et je propose un freestyle d'un copain dont le nom d'artiste est Suren, S-U-R-E-N, que vous pouvez retrouver sur YouTube et que j'interviewerai à la rentrée.
Yeah. Bête de sang, bête de flow. Et je t'ambiance dans le studio, c'est les locaux locaux. Écoute, c'est par ici que ça se passe. Hep hep hep, écoute. On évolue là, ma vie, mon destin me désire. À ce sujet, c'est pas normal, c'est pas le moment de partir. Si tu capes le délire, on s'ambiance dans nos vies. On s'en tape les couilles des soucis, on fait le taf, parfois vraiment c'est risqué. Et si tu capes les cons qu'on peut être comme un connard sous flash de whisky. Et tu le sais qu'on s'en tape les couilles, tu sais on le fait, on fait le taf. On jalouse pas, monnaie, monnaie. Le gars qu'on est, la vie qu'on a nous permet de faire session sur session. Objet du ciel, lieu artistique, IP session. Tu captes la clé, freestyle est venu automatique. Carpe diem, la lumière dans l'avenir. Si tu capes le délire, faut que tu respires en mode pas de diminique. Toi et ton parcours unique, freestyle tactique, freestyle technique. On se négocie authentique. Ici même c'est le son de ma clique. Ici même c'est le son. Ici même c'est le son de ma clique, ici même c'est le son. Tactique, freestyle, en grosse équipe. Authentique, lyrique dans mon style. Bienvenue monde tordu, une vie de mordu où les gens râlent, se collent, puis se calent. Une soirée open mic, une soirée open mic. Ça fait donc de bizarre de plus voir à travers ce brouillard. À quoi on va tête droite dans le mur, on se fracture nos vies. On encaisse, on se déchire en tous sens. Un instant, une absence. Celle de lutter, lutter autour de ses refrains. Esprit fracassé, cesse donc de crier ta joie autour de ses morphales qui s'ambiance sous pare-balles. Un délire optile mal, sache que c'est chacal. Cherche qu'à se protéger, se protéger. Mais t'es un fou toi, tu crois quoi que la vie est une rose qu'elle viendra en te serrant les bras. Alors pour qui, pourquoi, faites que je prends place autour de gens efficaces. C'est comme ça que ça se passe. Reste entier chez nous. On boit pas la tasse, on fait pas nos tasses. On boit pas la tasse et on fait pas nos tasses. Alors, qu'est-ce que tu t'excites? Qu'est-ce que tu cogites? Perso, je vise la paix, va pas dans un délire à vouloir me chercher. Moi, je vise la paix, y'a pas de frontières. Les barrières, on se les fait, on se les respecte. Tu crois quoi que t'es où? Tu crois quoi? Tu vas me clouer le bec quoi? Mais t'es fou toi, histoire de dra-dra. M'excite pas, c'est juste un taf, man. Juste un taf, man. Freestyle session.
Voilà, c'était mon pote Suren, au mic ou Mike, comme vous voulez. On a peut-être des choses à dire sur ce qu'on a entendu par rapport à...
Moi, ce qui me paraissait intéressant dans le rap, en fait, quand le mouvement est né, en fait, c'est qu'il y avait une connotation sociale assez forte, en fait. Je pense que c'est un mouvement qui est né dans les banlieues. Je sais pas.
Aux États-Unis, dans les banlieues.
Ouais, est-ce que c'est un cliché ou pas? Mais non, voilà, il y a cet aspect-là dans le rap qui était important pour moi. Voilà, c'est-à-dire qu'il témoigne d'une réalité sociale, d'une... Et c'est assez propre, je trouve, au XXe siècle, en fait.
Bien sûr, maintenant, il y a eu pas mal de... Ça s'est développé, en fait, le rap. Mmh. Au départ, c'était plutôt, on va dire... Au tout départ, c'était aux États-Unis, c'était plutôt un peu dans des fêtes, en fait, où il y en avait un qui avait trouvé une technique pour de scratch, je ne sais plus trop quoi, et qui avait révolutionné le truc. Et après, il y a eu pas mal d'accidents, et c'est par les accidents qu'ils ont découvert...
C'est vrai qu'il y a pas mal de samples.
Ouais, c'est par des accidents qu'ils ont découvert ça. Et c'est avant tout, c'est vrai, c'est une musique de revendication.
Ouais.
Qui après s'est développé avec l'ego trip, avec...
D'ailleurs, le texte souvent est pas... Est plus que parler, il est scandé en fait.
On revendique
quelque chose.
Ouais, ouais.
D'ailleurs, la musique, c'est un remède pour beaucoup de personnes, comme ceux qui en pratiquent ici. Et donc, on entend aussi parler de personnes qui ont été malades, comme Amy Winehouse, qui a été perturbée et qui donc...
dans la soul.
Souvent, on entend parler de personnes célèbres qui sont devenues célèbres parce que peut-être elles avaient quelque chose dans les tripes à cause de leurs problèmes psychiatriques.
Oui, c'est aussi dû au mode de vie des artistes aussi. Ça. Ils sont souvent tournés, il y a de la drogue, ils sont suivis par les paparazzi.
À part les grands artistes et tout ça, il y a des ateliers au GEM et les gens peuvent peut-être venir, on peut peut-être lancer un appel s'il y en a qui veulent faire de la radio avec nous, passer par le GEM et on vous invite à découvrir cet atelier. Quoi. Voilà.
Oui, il y a des ateliers, il y a aussi des soirées festives en fait. Alors je crois que c'est une fois par mois, le vendredi soir en fait, on fait venir un artiste c'est ouvert à tout le monde en fait. On a une petite scène là-bas, on a des projecteurs et voilà, soirée festive. Alors je crois que le prix d'entrée c'est pas beaucoup, c'est 2 ou 3 euros, ouais, je sais pas.
On mange.
Il y a un buffet après préparé par les gens du GEM en fait. Voilà.
Ok. Bon, bah écoutez, on va conclure. Merci à vous de nous avoir écoutés.
Merci à toi, Olivier.
Merci, Laurent. Merci, Emmanuel.
Merci Julie.
Aux absents, Luce et Gérard, qu'on remercie pour cette saison. Donc, c'était Citoyen sur JTFM au 91.2. C'était la dernière émission de la saison. Elle sera rediffusée le jeudi 20 à 9h. Bon été à toutes et tous. On se retrouve à la rentrée. Bye.
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 Retrouvez tous les projets du Sonolab sur le www.sonolab.fr ou sur JetFM 91.2.